Africa.
Parlons entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Demuller.
Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir de retrouver nos entrepreneurs à l'écoute d'Africa Radio. C'est parti pour Parlons entreprise avec coach Demuller. Comment faire mes premiers pas à l'international, c'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous songez à vendre vos produits et services à l'étranger. Quelle qu'en soit la raison, c'est une bonne idée, hein, car le développement à l'international concerne toutes les entreprises, y compris les TPE. Bonjour coach.
Bonjour Phil.
Et nous avons un invité sur le plateau, Monsieur Mpiana Kabamba, qui est donc directeur de CAPS Consulting et MYK Main Collection, qui est donc notre invité, qui est un entrepreneur. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Phil.
Alors coach, pourquoi ce sujet ?
Tout simplement, on cherche à encourager les entrepreneurs qui ont éventuellement du mal à se développer en France, en les incitant à regarder un peu ailleurs, parce que souvent on parle de la diaspora africaine, de retourner travailler en Afrique, mais pour ma part, il n'y a pas que l'Afrique,
exact.
Parce que il faut pas qu'on se ferme les portes en se disant, ben comme je suis africain, il faut absolument que je commence à développer en Afrique.
Mais on encourage tout de même le retour au pays.
On encourage le retour au pays, mais le retour au pays peut se faire en deux temps. Imaginons qu'il y a des affaires qui fonctionnent très bien au Canada, ben celui qui est en France, il va s'installer au Canada, il développe son entreprise. Une fois qu'il a assez de capitaux, ben il prend ses capitaux, retour en Afrique. Donc ça n'empêche pas au fait de développer les choses. Parce que souvent, nous, on se ferme en se disant, ben tiens, il faut absolument que je retourne en Afrique tout de suite. On peut le faire en deux temps.
Bon, parfois, on est guidé par la fibre patriotique.
Oui, bien sûr. Mais, non, mais cette fibre-là, au fait, c'est juste une question de réflexion. En se disant, est-ce que je le place en deuxième temps ou en premier temps ? Si je peux gagner énormément d'argent en me développant en Turquie ou en Chine ou au Canada, voire au Portugal ou éventuellement même au Maroc, ben je vais commencer par cette première étape-là pour pouvoir dégager assez de capitaux, maîtriser mon outil de travail, mes prestations. À partir de là, ben, je retourne en Afrique parce que l'Afrique reste notre objectif principal, à savoir pouvoir aller créer de la richesse, créer de l'emploi pour que l'Afrique devienne plus forte. Mais si il est nécessaire de passer par une étape intermédiaire, il ne faut pas s'en priver.
Alors j'aimerais avoir le point de vue de notre invité, Mpiana Kabamba, que pensez-vous ?
Oui. Je partage l'avis de coach, parce que c'est exactement, je pense, la vision de beaucoup de personnes de la diaspora aujourd'hui qui sont implantées dans la diaspora. L'objectif, comme il a dit, pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui en Europe, certes, il y a des opportunités, mais il y a encore plus d'opportunités chez nous en Afrique qui est encore considérée comme terrain vierge. Et là où le besoin est nettement plus ressenti. Et je pense que aujourd'hui, lorsque nous, comme on dit par exemple chez nous au Congo, dans ma région, il y a un proverbe qu'on appelle Mvula Wakale Jakalumakoab.
Ouais.
C'est-à-dire que
en Chiluba,
ça signifie que la pluie, en fait, lorsqu'il pleut dehors, l'homme naturellement cherchera à rentrer chez lui. C'est-à-dire que vous allez voir que aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en Europe, vivent certaines complications du fait de leur couleur de peau, du fait de leur appartenance à certaines pays africains, et ont comme souci à un moment donné de se développer et prendre ces connaissances-là et les déplacer chez eux afin de construire, afin de développer aussi leur pays.
Alors coach, comment faire ces premiers pas à l'international ? C'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui.
Tout à fait.
Quelle est la première étape justement à faire lorsqu'on voudrait pouvoir s'étendre ?
Au fait, pour commencer, c'est simple, il faut prendre la température. Qui dit température, il faut absolument commencer par exemple par des salons, aller dans les salons, parce que ce qui est avantageux, c'est qu'il y a des différents salons dans les différents pays. Certains pays viennent présenter les recherches qu'ils ont besoin, quel type d'activité qu'ils souhaiteraient qu'on puisse installer chez eux. Parce que il n'est pas simplement donné à une personne de se dire, ben tiens, j'ai une idée. Si votre idée que vous souhaitez, par exemple, développer au Cameroun, vous arrivez que c'est l'idée, elle est déjà installée depuis des années, que déjà on a développé, que le marché est quasiment saturé.
Mais on peut avoir la même idée et la développer différemment.
Bien sûr, ben c'est pour ça qu'il est important de participer, par exemple, à ce genre de salon-là. Ça vous permet de voir à quel niveau se trouve un peu votre futur produit ou votre prestation. et à partir de là, vous déciderez soit d'améliorer, soit de proposer autre chose. Donc, je propose qu'on puisse aller dans les salons. Il faut aussi collecter le maximum d'informations par rapport au pays ciblé. Parce que souvent, on se dit, je suis Camerounais, mon retour doit se passer au Cameroun. Peut-être pas si le marché est propice en Côte d'Ivoire comme au Congo. N'hésitez pas, parce que souvent, on se dit, c'est mon pays d'origine, mais pour la plupart de la diaspora, vous êtes peut-être retourné qu'une seule fois dans votre pays, vous le connaissez pas si bien que ça. Donc ça, peut-être ça reviendrait à la même chose que de découvrir le Congo, que de découvrir la Côte d'Ivoire. Donc il faut prendre le maximum d'informations au niveau de pays visés.
Et parfois il y a beaucoup d'obstacles, hein, surtout lorsqu'on est de la diaspora. On ne nous accueille pas comme il se doit. On dit bon, il vient de chez les Blancs, là-bas il faut d'abord le bloquer. Hein, ce n'est pas un enfant du pays.
Oui, c'est pour ça que la radio, l'émission qu'on fait, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une convergence entre les mentalités pour les gens qui viennent de la diaspora et les personnes sur place. Parce que les personnes sur place doivent comprendre que leurs frères et sœurs qui viennent de la diaspora vont apporter un plus.
Tout à fait.
Voilà, eux ils ont, on
sans,
apporte
sans
un plus.
Sans complexe de supériorité.
Non, sans complexe, ça, il faut vraiment bannir cette idée-là. Aujourd'hui, même les gens de la diaspora, on doit un peu les éduquer dans leur comportement à avoir.
C'est important.
À penser que quand on arrive là-bas, on est supérieur à eux. Non, il faut ouvrir son esprit et regarder que des fois, ils sont meilleurs que nous, rien que sur la connaissance du territoire, du système économique, de l'État. Donc, on a absolument besoin d'eux pour s'appuyer et pour pouvoir développer le business. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir ce discours-là positif en disant nous sommes ensemble en alliance entre la diaspora et les autochtones pour pouvoir développer correctement le business. Donc, il faut absolument déterminer votre segment de clientèle, prospecter sur le web, et ça permet de se dire, ben tiens, j'ai les premiers éléments, quel type de produit je peux proposer, quelles prestations, et ensuite derrière, on pourra s'installer.
Est-ce que ça rentre dans le cadre de CAPS Consulting ?
Tout à fait, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, moi je suis reparti au Congo pour la première fois en 2016. Mm-hmm. En 2016, ça fait maintenant 5 ans.
Après combien d'années ?
Je suis né, grandi en France, et j'ai toujours voulu partir, mais vous savez, avec les familles, souvent c'est un petit peu compliqué de partir un peu seul à l'aventure.
Ouais.
Donc du coup, j'ai forcé le passage et je suis parti en 2016. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 5 ans que je vais au Congo chaque année, on va dire plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai que j'ai dû d'abord aussi moi-même, avec ma volonté de vouloir faire quelque chose là-bas, j'ai dû d'abord aussi comprendre les choses là-bas. Mmh. Comment ça fonctionnait,
etc. C'était très important. Local, ouais.
Exactement.
S'imprégner de la sensibilité locale.
Exactement, parce qu'il y a des réalités. Nous, on vient avec un business plan dans notre tête en disant je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et vous arrivez là-bas, c'est totalement faux. Et c'est pour ça que j'ai dû prendre suffisamment de temps pour comprendre, premièrement, la mentalité des personnes avec qui on voulait travailler. Et deuxièmement, comprendre les réalités, comment, on va dire, les personnes que nous ciblons vivent en fonction des besoins que nous, on voulait créer en eux. Mmh. Maintenant, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, après 5 ans qu'on a compris comment ça se passe, on a pu lancer en 2019-2020 nos premières activités au Congo. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, merci à toutes les personnes aussi qui nous aident aussi à avancer dans nos projets. On a pu aujourd'hui constituer des équipes au Congo qui nous appuient dans nos différentes activités.
Quelles sont justement ces différentes activités ? Il faut nous les présenter.
Voilà. Alors on agit dans l'humanitaire.
Ouais.
On a une fondation richesse qui a été créée en 2019 avec mon associé Yves Mungwama de Richesse Immobilière et moi-même. Aujourd'hui, on a pu scolariser 500 enfants aujourd'hui à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. C'est une zone qui est enclavée du Congo et qui est dans une crise financière assez importante depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, grâce aux différentes personnes qui nous ont appuyé dans ce projet-là, notamment trois personnes importantes qui sont localisées en Mbujimayi, qu'on a dû éduquer durant plus d'un an, si je peux appeler ça comme ça, éduquer, pour comprendre, pour que nous puissions les faire comprendre de la manière dont nous voulions faire les choses et aussi s'adapter aussi au modèle local. Mmh. Et aujourd'hui, maintenant, grâce à Dieu, aujourd'hui, les choses avancent et on va partir sur notre deuxième projet médical durant l'année 2021. Alors, ça, c'est une des premières actions que nous avons faites. Et la deuxième que j'ai fait à titre personnel, c'est de commencer des séances de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Mmh. C'est-à-dire que nous avons, avec mon équipe qui est au Congo, nous allons commencer la semaine prochaine dès le 21 et 22 janvier 2021 en Bougemaï. Deux jours de formation sur la sensibilisation, à l'entrepreneuriat. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes là-bas, on a remarqué, qui ont un potentiel énorme, mmh. mais qui malheureusement ne bénéficient pas de petites astuces que nous avons ici.
Qui n'ont pas les clés, justement.
Pour démarrer parfois. Ouais. Et vous savez, le premier pas, comme on dit, est souvent le plus important.
Ouais.
Alors aujourd'hui, on va commencer ça dès la semaine prochaine en Bougemaï, deux jours de formation. Et on va répéter ça normalement au mois de février aussi à Kinshasa. Mmh. Donc notre objectif premier, c'est aussi d'apporter notre contribution sous l'appel du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à l'appel à la diaspora à revenir sur le terrain et aussi, premièrement, aussi à créer des richesses, c'est-à-dire créer de l'emploi, etc. et que les gens aussi puissent se retrouver aussi autonomes. Voilà.
Voilà. Comment faire mes premiers pas à l'international? C'est donc le sujet que nous abordons aujourd'hui, et Coach Day, avec notre invité, bien évidemment. Alors, Coach, à quoi consiste la création d'un poste d'observation?
Simplement, au lieu de dégager des capitaux, tout de suite installer toute une entreprise sur place, il est en premier lieu conseillé de créer un bureau de liaison, appelé souvent bureau de représentation. Donc c'est une structure légère qui permet pour l'instant en fait de prendre des contacts sur place, de voir éventuellement les clients potentiels, prendre contact avec l'administration, parce que la réglementation diffère selon les pays. Nous, par exemple, quand on vient de France, il y a une certaine réglementation, il y a des lois, il y a des règles. Et quand vous arrivez au Cameroun, au Congo, au Gabon, ben c'est souvent, même si pour les pays francophones, c'est un peu calqué comme la France, mais il y a quand même des spécificités, donc il est nécessaire de prendre connaissance de ces éléments-là. Mmh. Donc voilà, s'assurer de sa communication, commencer un peu à mettre un pied, mais en ayant juste un petit bureau de liaison avant de lancer vraiment la grosse machine. C'est vraiment une deuxième étape à faire quand on souhaite s'installer.
Alors, coach, à part la création d'un poste d'observation, que conseillez-vous pour les petits budgets? Parce que bon, tout le monde n'a pas le budget de Coach Day, par exemple.
Bon, si vous avez
ou
pas
de Monsieur Kabamba, les millions d'euros qu'il y a dans ses comptes.
Non. on souhaite, on travaille pour ça. Ouais. Donc, en fait, si vous n'avez pas le budget conséquent, vous pouvez vous appuyer sur les entreprises sur place. Par exemple, un agent commercial qui travaille déjà sur place, qui connaît le terrain, vous pouvez lui confier cette mission-là en disant, écoutez, moi, j'ai envie de m'installer au Gabon. Vous êtes entrepreneur gabonais, vous connaissez le territoire. Voici ma prestation que je souhaite vendre. Voici le produit que je souhaite vendre. Est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec les clients potentiels? Préparez-moi tout ce terrain-là. Bien sûr qu'il va vous demander quelque chose, mais vous n'aurez pas, par exemple, quand vous avez votre billet de liaison, bureau de liaison, il faut payer un loyer, il faut payer des salariés, donc le budget est conséquent. Tandis que quand vous faites appel à un agent commercial, ben voilà, vous pouvez même définir les conditions avec la personne en disant, on peut fonctionner par pourcentage. Si vous me ramenez de la clientèle, vous aurez 5-10% de ce que vous allez m'apporter. Donc il y a toujours cette facilité-là de bien préparer un bon contrat de prestation avec l'agent commercial.
Alors, Piana Kabamba, est-ce que ça a été votre démarche, justement, de ce retour au Congo?
Bien sûr, bien sûr. Il a été important d'agir comme le dit coach. Oui. Nous, c'était vraiment dans cette démarche-là que nous, aujourd'hui, on vient avec notre structure de CAPS Consulting, aussi faire comprendre aux gens que l'entrepreneuriat, malheureusement, ne s'improvise pas. Mmh. Donc, on vient dans cette dynamique-là de se dire, voilà, on vient aussi apporter notre contribution, comme l'a dit précédemment coach. Et pour nous, il est important aussi de donner aussi un cadre à tous ces futurs entrepreneurs-là. C'est pour ça que notre prochaine formation, c'est pour ça que je vais aussi profiter aussi pour présenter aussi les 5 chapitres que nous allons présenter là-bas. C'est-à-dire que le premier chapitre que nous allons commencer avec eux, c'était de devenir entrepreneur, c'est-à-dire quelles sont les bases pour l'être. Et deuxièmement, c'était cibler son activité, comment le faire pour arriver à aller justement là où la personne veut aller. Troisièmement, c'est financer son projet. Quatrièmement, c'est vendre ses produits et services à l'international. Et 5, assurer la pérennité de son entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est gestion, comptabilité. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, qui n'ont pas ces clés-là. Premièrement, ne savent pas démarrer, ne savent pas aussi parfois terminer, aller jusqu'au bout de leurs activités.
Alors coach, conseillez-vous plutôt d'ouvrir une succursale ou une filiale?
Vous savez, quand on part de succursale, c'est qu'il y a déjà une entreprise qui existe dans votre pays, là où vous résidez, pour nous en tant que Français. Pour ma part, il est difficile de commencer à entreprendre sans avoir déjà compris un peu l'entrepreneuriat dans le pays, là où vous vivez. Je pense qu'il est important de démarrer une activité en France, vous familiariser avec l'entrepreneuriat, parce que c'est pas du jour au lendemain, on se lève le matin, je deviens entrepreneur. Il y a beaucoup de choses, il faut maîtriser la réglementation, il faut maîtriser la gestion du personnel, il faut maîtriser votre activité. Donc quand vous souhaitez partir à l'international, il faut déjà commencer dans votre pays d'origine. Quand je parle pays d'origine, c'est là où vous résidez. Vous démarrez l'activité, vous voyez un peu comment ça se passe, vous corrigez les erreurs, parce que on a quand même ici, par exemple en France, beaucoup d'amortisseurs qui vous permettent, même quand vous échouez, vous avez des choses. Tandis que quand vous démarrez directement à l'extérieur, vous avez plus ces amortisseurs-là. Exact. C'est-à-dire, quand je parle d'amortisseurs, quelqu'un qui est en situation d'emploi décide de créer son entreprise, il peut maintenir son chômage pendant 23 mois. Je vous conseille de commencer d'abord ici, maîtriser votre activité, proposer vos services ici et vos produits, et derrière, pouvoir vous exporter après. Et c'est de là que vient l'idée de succursale. Ça veut dire qu'il y a déjà une entreprise existante ici, en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. Vous créez une antenne au Gabon, Cameroun, Sénégal et...
Ou en Côte d'Ivoire.
Abidjan. J'essaye de citer
là,
au fait.
Citer la Côte d'Ivoire.
Non, j'ai déjà cité la Côte d'Ivoire. Je vais essayer de citer au fur et à mesure tous les pays d'Afrique. Ouais. Oui.
Donc la Côte d'Ivoire. On va demander aux entrepreneurs ivoiriens de se manifester.
Oui, nous sommes avec la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, certains ne le savent pas, c'est un pays où vous avez la facilité de vous installer.
Ouais.
Même quand vous venez, d'un autre pays, un Congolais est bien accueilli en Côte d'Ivoire s'il veut s'installer, un Sénégalais, un Malien. Donc c'est vraiment un pays qui est propice à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises. Donc je souhaiterais que tous les autres pays d'Afrique puissent ouvrir un peu leurs frontières et surtout les mentalités. Ne voyez pas comme un danger votre frère d'Afrique qui arrive ou votre sœur qui arrive d'ailleurs, sachez-le. Quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour le pays parce que la personne.
Coach, c'est très bien de pointer cela du doigt quand on sait que parfois, si un Gabonais veut entreprendre en République démocratique du Congo, Congolais disent non, pas ce Gabonais là. Non, on va pas lui donner le marché parce qu'il n'est pas Congolais.
Mais ça, c'est un tort parce que ce que je ne comprends pas, ils vont facilement accepter le Libanais ou le Turc ou le Chinois qui arrive.
Par la couleur de sa peau.
Donc pour moi, ça, c'est un problème. On prend les investisseurs qui viennent, peu importe d'où ils viennent, et on fait un marché concurrentiel sans pour autant faire en sorte de favoriser telle ou telle personne, mais les pays bénéficieront parce que quoi qu'il en soit, quand vous créez une activité au sein d'un pays, vous créez de l'emploi.
Tout à fait.
L'État se retrouve en prélevant les taxes. Quand l'État prélève des taxes, de l'autre côté, l'État peut facilement mettre en marche les différentes actions, les différentes obligations qui l'incombent. Un État est riche par le biais de collecte des taxes et non par rapport au sous-sol, parce que souvent, par exemple, on dit au Congo, c'est un pays riche, c'est le sous-sol. Mais non, il faut absolument que le mécanisme de collecte de taxes soit à la hauteur. Pour qu'il puisse être à la hauteur, il faut qu'il y ait des entreprises qui créent de la richesse pour qu'on puisse taxer à la fois la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. C'est ça qui crée la richesse absolue de la France, en fait.
Alors, est-ce que pour CAPS Consulting, on va dire que c'est une succursale entre Paris et Kinshasa ou une filiale ? Comment ça se présente ?
Alors, CAPS Consulting a déjà commencé ici à Paris. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je faisais du consulting en business et développement. C'est-à-dire que des personnes qui voulaient démarrer leurs activités, on les appuyait par différents mécanismes, différentes formations, petites formations en entreprise. Et pour leur permettre justement de bien démarrer. Et je me suis aperçu en fait que le besoin, c'était vrai, était aussi ici, mais malheureusement dans nos communautés, uniquement dans nos communautés, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, par le biais du Pôle emploi ici par exemple, ont des formations financées pour accéder à l'entrepreneuriat. Mais chez nous, malheureusement, il n'y a aucun budget qui est dédié à ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de fréquenter les hautes personnalités de notre pays à ce sujet-là, et je me suis aperçu que en discutant avec eux, il y avait ce besoin qui manquait. C'est-à-dire qu'on veut que le pays devienne riche, mais on ne sait pas comment le faire. C'est-à-dire qu'on ne pense que, par exemple, chez nous au Congo, moi c'est le seul pays que je connais vraiment véritablement en Afrique, on pense seulement que ce sont seulement les minerais qui vont ramener la richesse à l'État. Or que aujourd'hui, on le voit même ici en France, c'est le secteur privé, c'est-à-dire le secteur des entreprises qui est la première richesse de cet État. Et aujourd'hui, le fait de combiner en fait Caps Consulting maintenant au Congo, c'est-à-dire que de l'implanter aujourd'hui là-bas, ça va permettre aussi aux autres de penser, même à la population, de se dire que si vous voulez gagner votre vie, il n'y a pas en allant extraire le diamant, extraire les minerais précieux et les ramener aux Chinois ou aux Libanais qui ont des comptoirs dans différentes parties du pays, mais vous pouvez aussi simplement commencer d'autres activités qui vont répondre à un besoin de la population quasiment quotidien. Et donc c'est dans cet objectif-là que nous avons décidé aussi d'implanter Caps Consulting là-bas. Donc c'est vraiment une succursale là-bas maintenant.
Africa. Parlons entreprise sur Africa Radio.
On parle donc d'entreprise sur Africa Radio avec coach Dave Muller. Alors coach, tout à l'heure on a parlé de filiale, hein, expliquez-nous, hein, pouvez-vous définir une filiale ?
En fait, une filiale, c'est une structure que vous créez au niveau du pays que vous visez le marché. Donc c'est une société qui a une personnalité juridique, et l'avantage de la filiale, c'est qu'elle va s'imprégner de la réglementation du pays visé. Donc des fois, il est conseillé pour vous faciliter l'accès aux appels d'offres d'avoir une filiale qui est créée, une entreprise créée selon les normes du pays. Et c'est ça l'avantage, ça vous permettra plus facilement de conquérir aux appels d'offres.
Alors pour réussir, est-il nécessaire de collaborer avec un partenaire local, coach ?
Pour ma part, c'est fortement conseillé.
Ah !
Pour ma part, c'est fortement conseillé, mais quand vous arrivez...
On peut se faire manger, écoute, attention.
Non,
il y a... Parce qu'on a eu des retours d'expérience, bon, on s'est associé avec quelqu'un localement qui prenait 50% des recettes qu'il mettait sous le coude.
Non, parce que en fait, quand on parle d'associé, c'est pas dit que l'associé reste là-bas et vous êtes en France, vous attendez que les choses se passent. Donc pour ma part, quand je parle de s'associer, vous allez sur place, s'il y a possibilité de tomber sur une personne qui va être dans votre domaine ou bien qui va être celui qui va vous apporter sur le plan administratif, gérer tout ce qui est bureaucratique, gérer tout ce qui est commercial. C'est quelqu'un qui connaît le terrain. Vous arrivez, nous on se dit souvent, je suis Congolais, mais en finalité, vous êtes plutôt un produit de la France ou du Canada ou de Suisse, au fait. Donc vous arrivez, vous n'avez pas la maîtrise du pays. Le fait d'avoir quelqu'un, même si vous ne vous associez pas, embauchez au moins quelqu'un qui a vraiment ces compétences-là, qui va vous accompagner au quotidien, ça va vous faciliter la tâche, parce que si ce n'est pas le cas, vous pouvez perdre quasiment la totalité de votre capital, parce que vous allez frapper dans les mauvaises portes. Vous le savez en plus comment ça fonctionne en Afrique. Certains bureaux, comme je dis, il faut les motiver, j'appelle ça des motivations. Donc quand c'est quelqu'un sur place, lui, la motivation va être
il faut mettre un petit billet
malheureusement,
dans le dossier.
Celui qui est sur place, la motivation va être minime. Or quand vous venez avec votre dehors de la France, parce que ça, je sais pas comment ils arrivent à reconnaître que vous venez de la France, vous pouvez être en babouche et en survêtement, ils sentent l'odeur de la France. C'est comme nous, quand les jeunes de quartier ils voient les flics, ils savent le reconnaître même quand ils ne sont pas en tenue. Il y a une odeur qui se dégage.
Une odeur de flic.
Oui, une odeur de flic. Donc c'est la même chose qui se dégage quand on vient de l'Europe. Vous êtes parmi tout le monde et vous n'avez pas de bijoux, vous n'avez rien de brillant, mais on dit celui-là, par sa démarche, par son aisance, par sa manière d'être, il vient de l'autre côté. Donc automatiquement, tout va vous coûter plus cher, on va plus vous compliquer. Donc essayez d'avoir quelqu'un, soit de vous associer, soit d'embaucher quelqu'un qui vous aide.
Est-ce que vous avez collaboré avec un partenaire local ?
Aujourd'hui, oui.
Ouais.
Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que moi, je suis venu un petit peu casser les codes.
Et racontez-nous comment s'est fait le choix, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir un excellent partenaire.
Exactement. Bon, le choix des partenaires s'est fait vraiment au bout de 2 ans. C'est-à-dire que, comme l'a dit coach, au niveau du recrutement, c'est vrai que nous, on sait comment ça se passe en Afrique. C'est souvent par affinité et non par compétence.
Toujours par affinité.
Et moi, justement, j'ai au vu de ce qui s'est passé déjà même dans nos familles, etc., que voilà, tel gère nos affaires, parce que c'est le frère de tel, etc. On a vu qu'il y a eu beaucoup de pertes dans la diaspora. Beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir au niveau des personnes là-bas. Et donc, du coup, beaucoup de gens se sont rétractés à vouloir faire quelque chose là-bas, même à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis parti dans l'optique de plus prendre par compétence. Aujourd'hui, j'ai des neveux qui sont très brillants, etc., mais malheureusement, que j'ai pas dû prendre avec moi. C'est-à-dire que j'ai préféré prendre quelqu'un de neutre dont je me suis aperçu qu'il avait les compétences. On a dû travailler avec lui pendant 2 ans.
Pourquoi vous refusez la famille?
Parce que tout simplement, en fait, vous savez, la famille, parfois, est malheureusement le premier destructeur d'une personne. Autant, en fait, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude.
D'une entreprise.
Voilà, parce que, en fait, vous savez, dans d'autres communautés, aujourd'hui, ils séparent business et famille. Ils savent très bien pourquoi. Aujourd'hui, dans une communauté, malheureusement, on a tendance à vouloir tout mélanger. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de familiarité qui s'apporte aujourd'hui si vous mettez des familles dans vos business propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un comportement où je me mets à la place, par exemple, d'un membre de ma famille qui, par exemple, sait que, par exemple, j'ai mon entreprise, il va se dire tout simplement, oh, c'est mon frère, de toute façon, il va me pardonner si je fais une bêtise. Or que vous savez que dans d'autres communautés, ça se passe pas comme ça. Vous prenez d'autres communautés juives, chinoises, etc.
Ou chinoises, et pakistanais, où il n'y a pas tout ça.
Ils ne font absolument pas. Ouais. Moi, j'ai
beaucoup
j'ai
de discipline.
Beaucoup.
Voilà, c'est et de rigueur.
D'abord. Donc, ce que moi, je veux dire dans tout ça, c'est que le choix s'est fait premièrement par compétence et non par affinité. Maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu que les compétences étaient là et qu'ils répondaient à nos besoins, on s'est dit, ok, on peut le prendre, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a créé des affinités, mais premièrement par rapport aux affaires qu'on faisait là-bas. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est que nous aussi, en tant que diaspora, on doit changer notre regard et notre façon de faire les choses. On ne peut plus repartir là-bas avec les connaissances qu'on a acquises ici en termes de recrutement, en termes de management d'équipe, etc., et repartir encore dans ce mood que c'est parce que c'est mon frère, je vais le prendre. Non, c'est ton business, tu as mis ton énergie, ton temps, etc., pour avoir peut-être rêvé une vie meilleure et aussi, c'est vrai, offrir de l'emploi là-bas, créer de la richesse. On doit aussi malheureusement changer ces codes-là. Donc on se doit aujourd'hui d'avoir une position différente de ce qui se faisait par le passé. Alors c'est tout simplement ce que pour rejoindre coach, ce que coach disait, mais aujourd'hui il en dépend aussi premièrement de notre responsabilité en tant que diaspora. Si on ne part pas avec la prétention d'être meilleur que les locaux, mais on se dit que si nous avons acquis des compétences et des connaissances ici et que nous souhaitons que l'Afrique se développe, peut-être pas sur le même modèle mais de manière quasi identique, et ben nous devons reprendre ces codes-là et les appliquer là-bas.
Alors oui, à l'instar, oui coach, tu voulais rajouter?
Oui, parce que c'est clair, sur la gestion des ressources humaines en Afrique, il y a un gros souci. C'est-à-dire que, comme on dit, on va privilégier la famille. Vous embauchez un neveu, vous savez que même la tante a son mot à dire dans l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est problématique. Oui, clairement, c'est-à-dire que surtout avec nos chères mamans, elles n'aiment pas les histoires avec leurs frères et sœurs. Elles vont toujours dire à mon fils, voilà, il faut gérer ça de telle manière. Donc, vous êtes plus chef d'entreprise.
On a pu l'observer aussi dans certains pays, en Afrique centrale notamment. Lorsqu'on est ministre, c'est tout le village qui est dans le ministère.
Oui, malheureusement. Et ça, vous savez d'où ça vient? Simplement, il y a peu d'emplois. Donc, l'objectif vraiment premier, c'est créer de la richesse, créer des emplois. Parce que quand on a un poste pour 10 000 postulants, le ministre qui prend le poste, le gouverneur, le maire de la ville, se dit, mais tiens, ouais, j'ai toute la famille qui est là, pour me soulager, pour éviter que je sors l'argent tous les mois pour 300 personnes, je veux prendre un enfant ou une sœur ou un frère dans chaque famille, comme ça ils vont intégrer mon cabinet, ils vont intégrer mon équipe ou je les place dans les autres cabinets, ça me permettra d'éviter de débourser de l'argent. Or, on n'embauche pas les gens par leur compétence, c'est simplement par nécessité, par souci d'avoir la tranquillité, et ça, c'est pas bon, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Donc nous, en arrivant, on a moins le poids, parce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a le poids de la famille, c'est-à-dire que le problème d'une personne, c'est le problème de toute la famille.
Exact.
Vous prenez une décision pour le cousin qui a mal agi, tout le monde dit, mais c'est quand même ton frère, tu peux quand même faire... Non, à un moment donné, si on agit de la sorte, le business, vous avez commencé avec un capital de 1 million d'euros, vous finirez par descendre à zéro, et voire même devoir l'argent à la banque. Il faut être clair, pragmatique et prendre les décisions qui s'imposent parce que le business, c'est le business.
Voilà, le business, c'est le business. Alors, monsieur Mpiana Kabamba, en parlant justement de business, je rappelle que vous êtes directeur de Caps Consulting et vous êtes également à la tête de MYK Men Collection.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est?
MYK Men Collection, c'est une marque de prêt-à-porter pour hommes, basée à Paris depuis janvier 2019. et qui consiste tout simplement à livrer gratuitement et dans l'heure, surtout la région parisienne et bruxelloise, des costumes et des manteaux pour les hommes. Donc c'est un e-commerce qui en fait éradique toutes les contraintes qui étaient imposées par Internet lorsque une personne shoppe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous shoppez sur Internet, lorsque vous chopez par exemple sur n'importe quel site internet et que vous commandez par exemple un t-shirt et que ce t-shirt là par exemple ne vous convient pas, vous êtes obligé de le réexpédier. Aujourd'hui, M.Equipment Collection ne permet pas ça, c'est-à-dire que nous on se déplace directement en physique chez la personne avec plusieurs tailles. D'accord. Et dans l'heure et le jour de son choix.
Et il fait alors, plusieurs essais sur place.
Voilà, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne paye qu'à la livraison. C'est-à-dire que nous, on n'exige aucune somme de départ. La personne commande directement sur notre site internet ou sur nos différentes plateformes, page Facebook, Instagram, etc. Ou bien nous passe directement un coup de fil. On prend rendez-vous avec cette personne-là et nous livrons directement à domicile. Et aujourd'hui, malgré le Covid, on a quand même su tirer notre épingle du jeu, parce que quand on se rend compte que les grands magasins aujourd'hui ont quasiment tous fermé avec la crise de Covid, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont nécessitées de ce genre de service. Et aujourd'hui, maintenant, on a remarqué que sur la période, disons le dernier trimestre 2020, on a fait une hausse de chiffre d'affaires de 65%.
Ah, donc on peut dire que malgré tout, cette crise sanitaire a été bénéfique pour vous.
Oui, pour M.Equipment Collection. Et puis surtout que M.Equipment Collection, chose très importante à savoir, c'est que lorsqu'une personne achète un article de notre collection, 5% de la valeur de l'article est renvoyée dans la Fondation Richesse pour développer des projets au Congo.
Alors coach, j'aimerais qu'on parle du joint aventure. Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'une joint aventure?
Oui, joint aventure, c'est simplement, voilà, comme on a parlé de est-ce qu'il faut s'associer ou pas avec un partenaire sur place, ouais. Ça fait partie de cette forme-là économique qui existe. Vous arrivez au Cameroun, au Congo. Vous souhaitez vous installer
au Burkina Faso,
au Bénin,
en Guinée-Conakry,
en Guinée, Zimbabwe, par exemple. Donc c'est bien de citer nos différents pays d'Afrique. Ça permet de rentrer dans la tête que l'Afrique est vaste et il faut absolument chercher à aller investir dans les différents pays qui le permettent. Donc voilà, joint aventure, ça permet de mettre en place un partenariat avec une entreprise qui est déjà sur place, ou soit vous créez carrément une nouvelle entreprise. Donc l'entreprise française qui arrive sur le territoire malien, et il y a des Maliens qui font exactement la même activité. Vous allez créer une structure, un partenariat pour développer le business. Je ne veux pas rentrer dans les termes trop techniques, mais l'objectif, c'est vraiment mettre en commun les moyens, mettre en commun les stratégies pour pouvoir développer votre business en ayant un partenaire privilégié, et vous déciderez la forme juridique que vous souhaiterez mettre en place.
Ça veut dire qu'il faut se faire accompagner de professionnels.
Oui, bien sûr. Comme je dis, toujours. Vous savez, ça, c'est souvent aussi le mal africain, c'est qu'on ne veut pas s'entourer des professionnels. Vous savez, dans chaque domaine, quand on est malade, je pense qu'on va voir le médecin automatiquement. Ben, c'est pareil, quand vous avez une entreprise a des sachants autour de l'entreprise, à savoir les avocats, les experts comptables, les commerciaux, les gens qui sont spécialisés dans le marketing, les gens qui sont spécialisés dans la création de tout ce qui est visuel, de site internet. N'essayez pas de vous improviser dans tel ou tel domaine, parce qu'à un moment donné, vous allez commettre des erreurs qui vont être irréparables. Il faut absolument se préparer en conséquence. Et j'invite aussi certains frères et sœurs de la diaspora qui ont des compétences, de temps en temps, de proposer des formations gratuites pour permettre à la diaspora d'avoir quand même accès à ce savoir-là. C'est aussi une part que vous pouvez donner votre participation au reste de la diaspora.
Exact. Alors, CABS Consulting, il y a, durant ce mois de janvier, des événements que vous préparez à Kinshasa.
Alors, à Mbujimayi, plus précisément.
Kinshasa, c'est où Mbujimayi ?
Mbujimayi, c'est au centre du Congo.
D'accord.
C'est une zone enclavée, donc c'est dans la zone du Kasaï oriental. Mmh. Et actuellement, donc, le 21 et 22 janvier 2021, nous allons tenir notre première formation, nos deux jours de formation de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Et chaque participant paiera à hauteur de 1 dollar par jour, 1 dollar symbolique.
Voilà. Donc voilà, et y a-t-il des pages comment justement rencontrer CABS Consulting et notamment MYK Collection?
Alors pour CABS Consulting, c'est tout simplement, vous allez sur ma page Facebook ou Instagram au nom de Mpiana, M-P-I-A-N-A. Mm-hmm.
Comme Kabamba. JB, le chanteur.
Comme JB, voilà. Ouais. Je le salue en passant. J'espère qu'il va bien. Piana Kabamba, donc K-A-B-A-M-B-A, sur nos différentes plateformes. Et pour M-Y-K Men Collection, M-Y-K, bon, c'est de l'anglais. Pour ceux qui sont plus francophones, c'est M-Y-K Men de M-E-N, collection comme collection.
Alors coach, que retenir sur notre sujet du jour? Comment faire ses premiers pas à l'international?
On a juste oublié de préciser rapidement que Monsieur Piana, c'est celui qui achète toutes les voitures de Fally Ipupa. Ils sont proches depuis des années.
Je ne savais pas.
Monsieur Fally Ipupa envoie les commandes chez nous. C'est juste pour donner la dimension de la confiance qu'on peut lui faire par rapport à tout ce qu'il peut réaliser. Donc simplement, comment faire? Je reviens à la question.
Comment faire ses premiers pas à l'international?
Il faut absolument respecter ce principe là, les différentes étapes. Donc je vous invite à réécouter l'émission qui est rediffusée le samedi matin et prendre le podcast. La semaine prochaine, nous aborderons les 8 clés pour réussir l'export.
Voilà, merci coach.
Merci.
Africa. C'était Parlons Entreprise sur Africa Radio, l'émission qui accompagne les entrepreneurs, présentée par Phil Le Montagnard avec le coach Demuller.